Merci pour ce temps déjà partagé qui nous introduit dans notre sujet d'aujourd'hui. Je lis quelques versets dans l'Épître aux Éphésiens et puis notre passage où on va s'arrêter ce matin se trouve dans 2 Chroniques chapitre 32. Si vous voulez chercher dans vos Bibles, je lis déjà dans les Éphésiens au chapitre 6, verset 10. À 12. Puisez votre force dans le Seigneur et dans sa grande puissance. Revêtez-vous de l'armure de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre toutes les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Notre sujet donc est le combat spirituel et nous allons voir un exemple de l'Ancien Testament dans 2 Chroniques 32.
Après ces événements qui démontrèrent la fidélité d'Ézéchias envers Dieu, Sennachérib, roi d'Assyrie, vint envahir le territoire de Juda. Il assiégea les villes fortifiées et ordonna d'en forcer les remparts. Ézéchias, voyant que Sennachérib était venu avec l'intention d'attaquer Jérusalem, tint conseil avec ses ministres et ses officiers pour faire boucher les sources d'eau situées en dehors de la ville. Tous l'aidèrent, et beaucoup de gens se rassemblèrent. Ils bouchèrent toutes les sources, y compris celles dont l'eau s'écoulait par un canal souterrain. Pourquoi, disaient-ils, les rois d'Assyrie trouveraient-ils à leur arrivée de l'eau en abondance? Ensuite, Ézéchias se mit courageusement à reconstruire toute la muraille de la ville, là où elle avait des brèches, et il suréleva les tours. Il la doubla d'une seconde muraille à l'extérieur, renforça les terrasses aménagées pour les cultures dans la cité de David. Il fit aussi fabriquer une grande quantité d'armes et de boucliers. Enfin, il établit des chefs militaires sur l'armée, puis il les rassembla autour de lui sur la place, près de la porte de la ville, pour les encourager et leur dit « Soyez forts et prenez courage. Soyez sans crainte. Ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent. Car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. » Ce roi n'a avec lui qu'une force humaine, mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. Il viendra à notre secours et il combattra pour nous. Alors toute la population fit confiance aux paroles d'Ézéchias, roi de Juda. Après cela, Sennachérib, roi d'Assyrie, envoya une délégation à Jérusalem vers Ézéchias, roi de Juda, et vers tous ceux de Juda qui étaient dans Jérusalem, pendant qu'il était lui-même devant Lachis, avec toutes ses forces. Il leur fit dire « Voici ce que déclare Sennachérib, roi d'Assyrie. En quoi placez-vous votre confiance pour que vous restiez ainsi enfermés dans la forteresse de Jérusalem ? Ne voyez-vous pas qu'Ézéchias vous trompe pour vous faire mourir de faim et de soif quand il dit « L'Éternel, notre Dieu, nous délivrera du roi d'Assyrie » N'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant aux habitants de Juda et de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant un seul autel et d'y brûler des parfums ? Ne savez-vous pas ce que nous avons fait, moi et mes ancêtres, à tous les peuples des autres pays? Les dieux de ces nations ont-ils pu les délivrer? Ont-ils pu délivrer leur pays de mon emprise? De tous les dieux de ces nations exterminées par mes ancêtres, quels sont ceux qui ont délivré leur peuple pour que votre Dieu soit capable de vous délivrer? Maintenant, ne vous laissez donc pas tromper par Ézéchias et qu'il ne vous abuse pas de cette manière. Ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de moi-même ou de mes ancêtres. Et vos dieux ne vous délivreront pas davantage de mon emprise. Les envoyés de Sennachérib continuèrent à parler contre l'Éternel Dieu et contre Ézéchias, son serviteur. Sennachérib avait aussi écrit des lettres outrageantes pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, dans lesquelles il le prenait à partie, disant « Pas plus que les dieux des nations des autres pays n'ont délivré leur peuple de mon emprise, le Dieu d'Ézéchias ne délivrera son peuple de mon emprise. » Les envoyés crièrent d'une voix forte en hébreu, à l'adresse des habitants de Jérusalem qui étaient sur la muraille, afin de les effrayer et de les terroriser pour pouvoir s'emparer de la ville. Ils parlèrent du Dieu de Jérusalem comme s'il s'agissait d'un Dieu des nations païennes, simple ouvrage fabriqué par des hommes. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent vers le ciel pour implorer du secours. Alors l'Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants guerriers, y compris les généraux et les officiers, si bien que le roi retourna dans son pays tout confus. Un jour, il pénétra dans le temple de son Dieu, et ses propres fils l'y assassinèrent d'un coup d'épée. C'est ainsi que l'Éternel délivra Ézéchias et les habitants de Jérusalem de Sennachérib, roi d'Assyrie, et de tout autre ennemi. Il leur accorda la paix sur toutes leurs frontières. Nombreux furent ceux qui apportèrent alors à Jérusalem une offrande à l'Éternel et de riches présents pour Ézéchias, roi de Juda. À la suite de ces événements, il acquit un grand prestige aux yeux de toutes les nations païennes.
Nous prions. Seigneur, nous te prions d'ouvrir nos yeux afin que nous puissions comprendre aussi si ou nous sommes objets, victimes de combats qui soient spirituels, que nous ne discernons pas. Accorde-nous discernement. Applique dans nos situations ce que tu veux nous dire ce matin. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Pourquoi ce choix de texte qui est assez long? Mais on dit qu'on lit la Bible de moins en moins aujourd'hui, donc vous avez eu une bonne portion ce matin. Ce texte se trouve par trois fois dans nos Bibles. Ici dans les Chroniques, également dans les Rois, mais aussi dans le prophète Ésaïe. Presque identique, mais avec des éléments supplémentaires que je vais signaler en partie dans ce message. Mais nous restons en 2 Chroniques 32 parce que c'est le plus court des trois récits. Trois fois, donc, important, très important, il y a peu de textes par trois fois. Mais aussi ce choix de texte parce que on s'interroge aux événements dans notre monde aujourd'hui. Syrie, Irak, l'État islamique, comment comprendre ces choses qui arrivent dans notre monde aujourd'hui? Ces choses-là, on ne veut pas les laisser sous silence non plus parce que ça nous préoccupe tous. Et puis, notre déclaration de foi en tant qu'Église parle des puissances du mal. Alors, c'est important qu'on en parle aussi dans nos cultes, un regard sur ce grand sujet, un regard non exhaustif, bien sûr, sur qu'est-ce que c'est le combat spirituel. Et vous le savez, on dit couramment qu'il y a deux dangers. Soit on est trop focalisé là-dessus et on ne voit que le diable partout et finalement les prières s'adressent davantage contre l'adversaire plutôt que d'être tournées vers notre Dieu. Mais l'autre danger, c'est qu'on n'est pas assez conscient, ou pas du tout. On ignore les desseins de l'adversaire de nos âmes. Et puis, j'étais absent, mais j'ai eu de retour le dimanche passé, j'ai évoqué la question, quel pourrait être le bonheur pour des chrétiens qui habitent dans ces régions en crise. Ça, c'était dimanche dernier. Dimanche prochain, c'est le dimanche de l'Église persécutée. Donc, nous essayons de situer ces événements que nous apprenons, qui sont courants aujourd'hui. Je vous laisse trois questions. C'est pas là encore la conclusion, mais il y aura... Comment s'équiper pour faire face quand la tempête arrive. Comment s'équiper pour faire face quand la tempête arrive? 2. Le combat spirituel se manifeste comment dans ma situation de vie? Et si on a le temps, je vais vous demander de discuter quelques moments avec votre voisin devant cette question. Et puis en troisième lieu, comment réagir si on croit être l'objet de ce conflit. Avis de tempête. Je reviens à notre texte. Si on avait lu les deux versets qui précèdent le chapitre 32, on aurait entendu ceci. Ézéchias agit d'une manière fidèle dans tout le pays de Juda. Il fit ce qui est bien, juste et fidèle devant l'Éternel son Dieu. Pour tout ce qu'il entreprit, qu'il s'agisse du service du temple de Dieu ou de l'obéissance à la loi et au commandement, il chercha à plaire à son Dieu de tout son cœur et tout lui réussit. En fait, Ézéchias, c'est une sorte de nouveau David. Il n'y en a pas eu comme lui fidèle depuis David. Et c'est le seul roi, à part David, où c'est précisé, Dieu était avec lui. On est à 715 ans avant la venue de Jésus-Christ. Et il y a eu 2 siècles de haut et de bas. Alors maintenant, on peut dire, un roi fidèle, ça promet enfin paix et sécurité. Eh bien non, pas tout de suite en tout cas, parce que nous avons lu Sennacharib, roi d'Assyrie, va envahir le territoire de Juda. Il avait l'intention d'attaquer Jérusalem même. La foi connaît aussi ses problèmes. Notre difficulté pourrait être, mais notre idée pourrait être, le dévouement d'Ézéchias aurait dû faire descendre la bénédiction de Dieu plutôt que de faire monter les armées de Sennacharib. Déjà, les villes de Juda sont tombées et Jérusalem est maintenant dans le viseur. Alors, dilemme, si on n'a pas déjà constaté que la foi n'est pas une prophylactique qui empêche tout désastre. On peut s'attacher au Seigneur de tout son cœur et l'État islamique peut arriver à ses portes. La bénédiction de connaître Dieu peut être bousculée par échec et détresse. C'est important de le savoir pour un Ézéchiel, sinon le danger serait d'abandonner quand l'ennemi se présente pour tout, essayer de tout renverser. Et on est tenté de jeter l'éponge plutôt que l'ancre quand la tempête est là. Et puis nous avons entendu de tous ces préparatifs, murailles renforcées, munitions accumulées, ravitaillement assuré. Le canal que Ézéchias a fait couper dans le rocher à Jérusalem existe toujours et peut-être certains l'ont visité pour faire venir l'eau dans la ville. Impressionnant. Est-ce qu'il aurait dû le faire? Certains de nos jeunes sont au week-end freestyle où le thème est lâcher prise. Lâcher prise. En anglais, on dit let go and let God. Let go and let God, mais on dit aussi avec le danger que ça tombe sur son pied. Est-ce qu'il faut juste rien faire et s'attendre à Dieu? C'est sûr qu'avec tous ces préparatifs, la tentation, c'est de placer leur sécurité en leurs ressources. Est-ce que c'est aussi peut-être un danger pour nous? Et donc, c'est à ces moments-là que Dieu permet aux Assyriens de se pointer dans une vie. Ou, et c'est l'interprétation que je préfère, Ézéchias, voyant les Assyriens arriver à l'horizon, a passé les trois chapitres précédents, c'est-à-dire les 14 premières années de son règne, à ramener le culte de Dieu au centre de son peuple. Avec, comme point culminant, vous vous souvenez peut-être, une célébration de Pâques quand ça n'a jamais eu lieu depuis les temps du roi Salomon. Et lui, il savait organiser des fêtes. Alors ici, Dieu, si on admet cela, aurait tenu les super-agressifs assyriens à distance pendant 14 ans jusqu'à ce que la réformation a pu avoir lieu. Mais la question est posée. Quand la tempête arrive, on compte sur quoi finalement? La question est là. Et maintenant, quand l'ennemi se déchaîne, et on a toute une série d'indications dans notre passage. D'abord, division. On veut suivre ses manœuvres parce qu'on est censé ne pas ignorer ses desseins. Verset 12, division. N'est-ce pas précisément ce Dieu dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant aux habitants de Jérusalem de rendre leur culte uniquement devant un seul autel et d'y brûler des parfums? Les services secrets des Assyriens ont bien fait leur boulot. Parce que ces réformes effectuées depuis 14 ans par Ézéchias n'étaient pas sans doute au goût de tout le monde. Qui aime les changements? On a adoré ces dieux depuis des décennies maintenant, et voilà que ce nouveau roi arrive et dit il faut adorer l'Éternel seul. Alors si on profitait pour semer un peu de mécontentement devant les changements effectués, un peu d'incertitude, de confusion, de séparer, diviser le peuple et leurs dirigeants. Ça épargnerait beaucoup de transpiration aux troupes assyriennes, finalement, et gagnerait pas mal de temps. Diviser ou, verset suivant, intimider. Ne savez-vous pas, verset 13, ce que nous avons fait, moi et mes ancêtres, à tous les peuples des autres pays. Malheureusement pour eux, c'était fort bien connu. L'État islamique ressemble à des enfants de cœur par rapport à ce que faisaient les Assyriens aux populations vaincues. Je ne vais pas vous donner des exemples, mais c'est horrible. Semer la terreur. En fait, c'est la marque de l'extrémisme islamique depuis toujours. Et malheureusement, des fois, les chrétiens ont employé les mêmes moyens. Et puis le verset 15, faux raisonnement. Ne vous laissez donc pas tromper par Ézéchias, qui ne vous abuse pas de cette manière, ne vous fiez pas à lui, car aucun dieu d'aucune nation ni d'aucun royaume n'a pu délivrer son peuple de moi-même. Comparez l'Éternel Dieu avec les autres Dieu. Ils sont partis de la Syrie comme un rouleau compresseur aplatir tous les pays en leur chemin. Maintenant, en semant ces idées, ils veulent simplement affaiblir toute résistance. Si vous ne pouvez pas nous battre, il faut se joindre à nous. C'est aussi un dicton en anglais. If you can't beat them, join them. Et puis, il y a le mépris qui n'est pas dans ce récit, mais dans le récit parallèle. L'envoyé va dire, mais mon roi va vous fournir 2000 cavaliers. Si, 2000 chevaux, si vous avez les cavaliers pour les monter. Mépris. Et puis fausse promesse pour finalement, et c'est pas dans notre texte non plus, mais dans Ésaïe dit, mais rendez à nous et on va vous fournir maison, vigne, olivier, chacun aura son puits, son jardin. La brochure est très attrayante. Au lieu de souffrance, ce sera l'abondance dans notre camp. Au lieu de persévérance, ce serait comme des vacances. Ouvrez-nous les portes de votre ville, de votre cœur, lisez comme vous voulez, et vous verrez. Oui, il s'agit de changer de territoire. Mais vous verrez combien c'est agréable sous mon régime, dans mon royaume. Fausse promesse. Et finalement, et ce serait l'erreur fatale de Sennacherib et son envoyé, blasphème. Sennacherib avait écrit des lettres outrageantes pour l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dans son arrogance, et on peut dire aussi dans son ignorance, il a dit, mais c'est encore un dieu local comme les autres à éliminer, le dieu de la Bible, l'Éternel. Et là, il s'est dépassé. Il a franchi la ligne. Il va faire encore beaucoup de bruit. Mais c'est le début de la fin pour Sennacherib. Division, donc. Est-ce que le combat est spirituel? Dans combien d'églises c'est le cas? Intimidation. Dans combien de pays est-ce que c'est le cas? Faux raisonnement. Tu seras tellement plus heureux avec un autre conjoint. Dans combien de couples c'est le cas? Mépris. Je m'appelle quand j'étais avec Radio Réveil, quelqu'un est venu et il n'avait pas un mot encourageant à dire dans la situation difficile qu'on traversait. Et avec ce mépris, ça m'a donné confiance de penser, mais Dieu n'a pas dit son dernier mot. Dieu viendra à notre secours. Fausse promesse. Consommez plus et vous connaîtrez le bonheur. Blasphème. Effectivement, le combat est spirituel. Donc, j'avais dit, et pourquoi pas prendre 3-4 minutes à juste discuter avec votre voisin et comment ça s'exprime dans ma vie, dans ma situation, là où je suis. Est-ce que je suis touché par ça? Si vous n'aimez pas faire ça, j'ai entendu ce conseil dernièrement, vous appuyez sur vos genoux et les gens penseraient que vous êtes en train de prier. Donc prenez juste 2-3 minutes à partager. Est-ce que c'est une réalité qui me rejoint ou non? Ça se passe que en Syrie, en Irak, en Suisse, ça n'existe pas. Alors, échangez avec votre voisin que vous connaissez peut-être ou peut-être pas, si ça vous concerne. Je vous invite à refocaliser sur le devant. On a entendu un avis de tempête. On a vu comment l'ennemi peut se déchaîner. Et maintenant, c'est le moment pour Dieu de se lever. À Jérusalem, devant ces menaces, bien sûr, tout est consternation et détresse. C'est la crise. Dans un récit parallèle, on apprendra que le roi se promène vêtu de sacs et avec des cendres, signe de la souffrance extrême, peut-être aussi de repentance. En tout cas, c'est la crise, tout est sombre. Mais se lèvera une voix prophétique, la voix d'Ésaïe, qui, lui, le roi s'est tourné vers le serviteur de l'Éternel, et lui va transmettre le message suivant. Voici ce que vous direz à votre souverain. Donc, à Ézéchias. Ainsi parle l'Éternel. Ne te laisse pas effrayer par les paroles que tu as entendues et par lesquelles les officiers du roi d'Assyrie m'ont outragé. Le roi va recevoir une certaine nouvelle. Là-dessus, je lui ferai prendre la décision de retourner dans son pays où je le ferai mourir, assassiné. Ça, c'est le message qui est transmis par Ésaïe, mais en attendant, rien ne change sur le terrain. On entend les cris montés de Jérusalem et de la Syrie, peut-être. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand? Dans nos situations de crise, devant la réalité que nous pouvons vivre, la détresse est là pour nous décourager, tirer en bas, même si on connaît les promesses de Dieu, même si on a l'assurance de sa fidélité, si rien ne semble changer sur le terrain. Les souffrances du temps présent, dont parle l'apôtre Paul, peuvent semble être interminable, sans issue. Que faire quand ça dure? Que faire au milieu de la tempête? Que fait Ézéchias? Ézéchias, lui, comme j'ai dit, il ne jette pas l'éponge, il jette l'encre en lieu sûr pour avoir un point d'attache certain. Il va prier. On peut dire, quand il n'y a rien d'autre à faire, quand l'espoir est nulle part ailleurs, l'aide ne peut venir que d'ici, mais est-ce que ce n'est pas là quand on commence finalement à prier? Et il va affirmer des vérités qui le tient en place dans la tempête. Les autres récits vont signaler qu'il monte au temple et qu'il prie. Je donne un exemple de sa prière. Il pria, « Éternel Dieu d'Israël, qui a ton trône au-dessus des chérubins, c'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. » Vous savez, on est à l'esprit ce qu'a dit l'envoyé de Sennacherib. « C'est toi qui es le seul Dieu pour tous les royaumes de la terre. C'est toi qui as créé le ciel et la terre. » Au-dessus des chérubins, au-dessus de toute chose, au-dessus de toute principauté, pouvoir, autorité, au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans ce temps présent et dans les temps à venir. Mais présent aussi, parce que les chérubins étaient là dans le lieu très saint au cœur de Jérusalem. Souverain partout, c'est toi qui es le seul Dieu de toutes les nations de la terre. Il n'y a aucun autre nom donné sous le ciel par lequel nous devons être sauvés. Et il est puissant, capable, c'est toi qui as créé le ciel et la terre. Toute autorité m'a été donnée dans le ciel et sur la terre, dit le Seigneur Jésus. Il est capable, il peut tout. Donc, Ézéchias remet à l'esprit la majesté de celui vers qui il s'est tourné. Il donne des affirmations de foi, on peut dire, il prend position en ce qui est vraiment clair, sûr et certain. Et puis, il va implorer son secours. « Éternel, prête l'oreille et écoute. » « Éternel, ouvre les yeux et regarde, entends les paroles que Sennacherib a envoyées dire pour insulter le Dieu vivant. Mais toi, Éternel, notre Dieu, sauve-nous maintenant pour que tous les royaumes de la terre sachent que toi seul, Éternel, tu es Dieu. » Il prie que le nom de Dieu ne soit pas bafoué, mais glorifié. Il est concerné premièrement, non pas de sauver sa propre peau, mais sauver l'honneur de son Dieu. Et alors, quand arrive le flot de l'ennemi, vague après vague, il se heurtera contre un rocher. Sennacherib vient entourer la cité et il trouve que la cité est déjà occupée par une autre présence. Dieu a investi les lieux. Résultat, l'ennemi s'en va tout confus. Dieu a tout sous son contrôle. Et c'est un fait historique que Sennacherib, ils ont déterré les archéologues, dans les murailles de son palais, il a décrit comment il a pris Lachish qui était dans notre récit. Aucun récit d'une prise de Jérusalem. Dieu était là et il n'a pas lâché les siens. Il s'est levé à l'heure voulue. Alors, en conclusion, est-ce que la Syrie aurait ses équivalents dans notre monde d'aujourd'hui? Je parle du monde spirituel que l'on ne voit pas. Parce que nous sommes exhortés à ne pas nous tromper de l'ennemi. Nous n'avons pas à lutter contre des hommes, des femmes, mais dans des êtres méchants dans les lieux célestes. Et résister, écrivait Marie Durand dans sa tour, enfermée dans la tour de Constance. Résister devant la tempête de la persécution. Tenez ferme, a dit Paul, quand l'ennemi se déchaîne. Car quand Dieu se lève, l'ennemi est mis en déroute. Priez, nous dit la Bible, car la victoire dans ce combat appartient toujours à notre chef. Amen.
Soir.